7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Chantal Leroux.
Bonjour à tous les voisins et les voisines. Tablettes, smartphones, internet illimité. Les nouvelles technologies ont-elles révolutionné l'apprentissage? Les youtubeurs et leurs milliers, voire millions d'abonnés réussissent-ils à capter l'attention des élèves là où les enseignants sont à la peine? Les vidéos, les tutos, les MOOC ont-ils rendu le savoir ou les savoirs plus accessibles parce que plus ludiques? Qu'apprend-on réellement en dehors de l'école grâce au numérique? On en débat avec nos invités en duplex de Toulouse. André Tricot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur en psychologie à l'ESPE de Toulouse et vous publiez avec Franck Amadieu « Apprendre avec le numérique, mythe et réalité » aux éditions Retz. À mes côtés en studio, un youtubeur, Hugo Travers, bonjour.
Bonjour.
Vous avez 21 ans et vous avez créé en 2015 la chaîne Hugo Décrypte qui, comme son nom l'indique, décrypte l'actualité. Et une youtubeuse, Natacha, bonjour.
Bonjour.
Vous avez créé il y a 4 ans également la chaîne Nart où vous abordez l'art au sens large. Vous nous l'expliquerez dans un instant. Nous appellerons tout à l'heure Loïc Manviel, enseignant-chercheur à l'EDEC et directeur du Bachelor of Science de l'EDEC. Il nous parlera de la formation en ligne que vient de créer cette grande école. Si vous avez des questions pour nos invités ou si vous avez envie de témoigner, appelez-nous au 33 1 84 22 71 71 et c'est le même numéro pour nous laisser des messages sur WhatsApp.
7 milliards de voisins.
On est en forme.
C'est l'attitude qui gagne.
André Tricot, dans votre livre, vous passez en revue 11 mythes liés au numérique pour apprendre. Déjà, en employant le mot mythe, est-ce que vous n'aviez pas, dès le départ, des idées préconçues ?
Non. Merci pour cette jolie question. En fait, on avance masqué dans ce livre parce que nous, Franck, Amadieu et moi, nous sommes des fans de numérique et nous avons consacré toute notre vie académique au numérique. Et en fait, ce livre est un exercice d'autocritique avant tout. Et donc, c'est nos propres mythes que nous avons combattus.
Parce que vous êtes allé un peu à contre-courant.
Tout à fait, mais à contre-courant de nous-mêmes d'abord. Et on va dire de discours qu'on entend autour de nous, de la part de responsables, de la part de chercheurs, de la part d'enseignants, de la part de formateurs, puis de la part de tout le monde dans la société. Et l'idée, voilà, c'est que de temps en temps, il faut se poser et regarder ces belles idées qu'on entend partout et auxquelles on aimerait adhérer, et puis on les regarde de façon critique, tout simplement.
Alors justement, quels sont les principaux mythes sur le numérique qui, d'après vous, sont tombés? Est-ce que vous pouvez prendre un ou deux exemples?
Oui, il y a un exemple que j'aime beaucoup et qui, parce qu'il est difficile, c'est le mythe selon lequel les outils numériques motiveraient les élèves, les jeunes, parfois les moins jeunes, parfois tout le monde. Et c'est quelque chose d'intéressant parce que il y a d'une part un effet de mode. Quand quelque chose de nouveau apparaît, il y a un effet d'innovation en disant « Ah, c'est nouveau, on n'a pas essayé, on aimerait essayer » ou « C'est nouveau, c'est pas comme la génération ancienne, donc nous qui sommes jeunes, nous qui sommes innovants, nous allons pouvoir faire différemment de... » voire même des arguments « Ah, moi quand j'étais élève, c'était pénible, et puis maintenant, grâce à ce truc qui est nouveau, ça va être moins pénible. » Donc il y a cet argument-là, et puis il y a un argument plus intrinsèque, des outils numériques qui permettent, par exemple, de montrer un phénomène dynamique complexe en science, qui est à peu près impossible à faire sur un tableau avec une craie. Maintenant, il y a des outils qui permettent de le faire, et donc on va être plus intéressant, car plus réaliste, plus proche de ce qu'on essaye de faire comprendre, plus direct. Et l'idée, voilà, c'est qu'on a derrière cette idée de « ça va améliorer la motivation », en réalité, des idées différentes. celles qui ont une durée de vie de 5 ans, parce que le problème de la nouveauté, c'est que 5 ans après, c'est plus nouveau. Donc, on devient vite has-been dans ce domaine. Et puis, des raisons un peu plus profondes, qui est que quand on change les médias, quand on change la façon de présenter, la façon d'échanger, on touche profondément à la transmission des savoirs et des connaissances.
Alors, qu'apprend-on sur les écrans en dehors de l'école ? Charlie Dupiot a plongé pour nous dans les téléphones d'une fratrie parisienne. Théophile, 12 ans en 5e, Artus, 15 ans en 2e et Maïlis, 18 ans en prépa scientifique. Et vous allez l'entendre, chacun a ses centres d'intérêt sur la toile.
Alors, essentiellement, moi je passe mon temps sur Instagram, une application. Je suis des comptes qui parlent de la géopolitique parce que j'en ai beaucoup besoin pour mes études. Tous les jours, ils mettent une revue sur la géopolitique dans le monde et ils donnent l'actualité internationale tous les jours. Ça peut parler de Donald Trump comme ça peut parler de l'Algérie, tout ce qui se passe en ce moment.
En fait, Instagram, c'est un réseau social de photos. Donc là, tu cliques sur une photo, là en l'occurrence, c'est sur l'Algérie. C'est une femme avec le poing levé, avec le drapeau algérien, il y a écrit « Algérie, la contestation ». Et dans la légende, il y a un texte qui est assez long, qui résume un peu les choses, c'est ça ?
Voilà, j'apprends pas mal de trucs dessus et c'est intéressant. Ensuite, sur Internet, quand j'étais jeune, j'ai appris à me maquiller. Ce qui a été pratique, c'était sur YouTube. Et ils expliquent comment abîmer sa peau, prendre les bons produits dans le bon ordre, essayer que ça soit pas trop chargé, ou pour comment se maquiller, par exemple si on a une soirée et c'est pratique quand on sait rien faire. Par exemple, j'arrivais pas à mettre de l'eyeliner.
Je vais vous montrer un peu ma technique pour faire mon eyeliner. Je vais me maquiller ce côté devant vous pour vous montrer comment je fais et peut-être que ça peut vous aider.
J'ai appris qu'on peut utiliser une cuillère par exemple pour nous aider à faire le trait. On met sur la paupière de l'œil et par en dessous on peut faire le trait en noir. Et du coup, de temps en temps, j'utilise cette technique, donc c'est sympa.
Moi, j'utilise essentiellement YouTube pour apprendre tout ce qui est scientifique.
Tu peux me montrer par exemple ce que tu suis
Alors par exemple je suis des chaînes comme Top Factory qui parlent essentiellement d'astronomie et de étoile à neutrons, qui est un sujet très passionnant.
C'est quoi une étoile à neutrons ?
C'est une étoile très condensée qui a une forte gravité.
Ça c'est quelque chose que tu avais appris à l'école ?
Non. Pas du tout.
Mais je sais que, par exemple, souvent, Artus, quand on regarde la télé, des choses comme ça, sur des émissions type Arte, et il sort des mots qui viennent... ça, c'est une vague scélérate. Et nous, on est en mode... Ah, sûrement. Et en fait, je sais qu'il regarde beaucoup de vidéos comme ça, et ça l'aide vraiment... il apprend plein de choses. Il a une culture générale, je pense, vachement plus approfondie niveau scientifique, qu'il a eu grâce à Internet, et qu'on n'étudie pas forcément durant la scolarité.
Les thématiques sont 10 phénomènes spatiaux exterminateurs, 10 plus grands objets de l'univers. Alors sur quoi on clique ?
Eh bien salut YouTube, c'est JP de Top Factory. Ceux qui me connaissent savent déjà que je suis un grand passionné de l'univers qui nous entoure. Aujourd'hui on va s'intéresser aux plus grands objets de l'univers. Il ne s'agit pas d'un réel classement mais plutôt d'une liste des plus grands objets spatiaux par catégorie. Vous allez découvrir le plus grand trou noir, la plus grande galaxie ainsi que d'autres objets vraiment mais vraiment gigantesques dont un certain mur d'une taille absolument inimaginable. Bon, j'espère que j'ai attisé votre curiosité parce que c'est parti pour découvrir ces 10 plus grands objets de l'univers.
Ce sont des photos en fait.
C'est comme un diaporama. Il n'y a pas de texte du tout, non. Ça dure 14 minutes.
Alors et toi Théophile, qu'est-ce qu'il y a dans ton téléphone ?
Des vidéos un peu cuisine, hein, parce que j'aime bien la cuisine. C'est des sortes de recettes de gâteaux mais un peu revisitées. Ouais, il y avait son moelleux au chocolat. Il avait l'air mais à croquer genre.
Salut à vous les amis, bienvenue sur Fast Food Cuisine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un grand classique de la cuisine. On va faire ensemble un fondant, un mi-cuit au chocolat. Il y a différentes façons de l'appeler, en tout cas, c'est juste délicieux. Et je vais vous montrer comment faire ça facilement, rapidement, à la maison. C'est une recette inratable, c'est parti.
Les cuisines après ces gâteaux ?
Ça dépend.
Et toi, tu passes combien de temps à regarder ce genre de vidéos par jour ?
Les semaines, je passe une demi-heure à une heure. Et en week-end, un peu plus.
Alors moi, c'est souvent dans mon lit, pendant le week-end pour me reposer, histoire de ne pas rien faire, mais au moins je me dis bon bah j'apprends peut-être quelque chose.
7 milliards de voisins, c'est maintenant.
Vos réactions à ce reportage, je commence par vous, Natacha. Internet permet d'apprendre dans tous les domaines, du plus frivole au plus sérieux.
Oui, absolument. Moi, je trouve ça très intéressant justement que dans ce reportage, on parle beaucoup des tutos, parce que les tutos, c'est une part très très importante d'Internet et je pense que qui est surtout énormément consommée par beaucoup plus de monde que par exemple le type de contenu que moi je peux faire, qu'on appelle de la vulgarisation culturelle. Et je sais que les tutos des élèves de l'école primaire jusqu'à mes parents consomment des tutos. Moi, j'ai consommé du tuto pour savoir poser du papier peint, parce que je n'avais jamais posé de papier peint avant. Et c'est vrai qu'on apprend énormément de choses avec ce type de contenu qui est parfois aussi un petit peu pris de haut, parce qu'il y a notamment en France, de temps en temps, un comportement un petit peu élitiste vis-à-vis notamment des tutos beauté, qui est un contenu très féminin et parfois très méprisé, à tort, je trouve, parce que c'est du tuto tout aussi valable que le reste des tutos.
Hugo Travers.
Non, c'est vrai que tu as totalement raison. C'est une dimension d'ailleurs très importante sur YouTube, qui est une des plateformes quand même d'éducation les plus importantes aujourd'hui. T'as typiquement toutes les vidéos de tutoriels, mais sur des choses très basiques, mais parfois un peu complexes. Comment installer sa machine à laver, comment repasser, comment faire ça. Ce sont au final des vidéos qui font des millions de vues et qui sont sur ce domaine de l'éducation. Après, ce qui me semble intéressant entre ce qu'a dit monsieur tout à l'heure au téléphone et le reportage qu'on vient d'entendre à l'instant, c'est cette distinction peut-être qu'il y a à faire entre des usages numériques qui vont être intégrés à l'école, du type mettre une tablette avec les élèves pour qu'ils puissent apprendre différemment au sein d'une classe, et juste simplement des outils d'éducation qui sont en ligne et où des jeunes vont aller spontanément eux-mêmes s'abonner et suivre des vidéos. Et je pense que ce qui est intéressant dans ce reportage, c'est qu'on entend en fait une envie d'apprendre de ces jeunes-là qui spontanément eux-mêmes vont avoir le réflexe d'aller sur ces éléments-là. Et c'est ce qui fait d'ailleurs, je pense, que c'est efficace, c'est que eux-mêmes se sentent. C'est comme quand on nous impose quelque chose, quand on nous impose un livre à lire à l'école, c'est tout de suite. Ça donne moins envie que quand on va le lire nous-mêmes et qu'on prend l'initiative de le faire. Et c'est, je pense, une dimension qui est assez, assez intéressante.
Et on a des messages sur Facebook qui vont dans ce sens. Mwambalo nous écrit de Bukavu. Internet m'a permis de comprendre beaucoup de choses, comme les différentes musiques, les danses à la mode, les sciences. Romain, qui nous écoute également à Bukavu en RDC. Ce que j'ai appris par Internet, c'est la sexualité. Nous avons des coutumes qui ne permettent pas la discussion en famille. La plupart de nos parents n'ont pas fait beaucoup d'études. Voilà pourquoi nous, les enfants, on cherche des infos sur notre développement et notre sexualité. Et puis Aziza, qui nous écrit de Bujumbura et qui est médecin, elle écrit « Moi, j'ai beaucoup appris sur la broderie et le tricot, mes passions, en visionnant des tutos sur YouTube. Il m'arrive aussi de regarder des interventions chirurgicales, mais je ne pratique plus. » André Tricot, vous êtes toujours avec nous en ligne de Toulouse. Pour Artus, 15 ans, qu'on a écouté tout à l'heure et qui est très branché science, YouTube, c'est à apprendre ce qu'il n'apprend pas à l'école. Est-ce qu'on acquiert aujourd'hui une culture générale plus approfondie grâce à Internet ?
Oui, je suis complètement d'accord avec la distinction que vous venez de faire entre ce qu'on apprend en dehors de l'école et ce qu'on apprend à l'école. Ce qu'on apprend en dehors de l'école, c'est essentiellement les choses qui nous intéressent. C'est nous qui décidons d'aller lire tel livre plutôt que tel autre, ou d'aller regarder telle vidéo sur YouTube plutôt que telle autre. Et ça a toujours existé. Les humains apprennent à chaque minute de leur vie. Parce qu'ils rencontrent une personne, parce qu'ils lisent un livre, parce qu'ils découvrent quelque chose dans la nature. Et cet apprentissage du quotidien, il est essentiellement guidé par les buts que nous poursuivons. Par notre curiosité, par ce qui nous intéresse.
Alors,
les sociétés, toutes, à un moment de leur histoire, elles créent des écoles. Les sociétés créent des écoles quand grandir, en étant curieux, en ayant des livres, en ayant tout ce que vous voulez autour de vous, elles créent des écoles quand grandir ne suffit plus. C'est-à-dire quand apprendre uniquement ce qui vous intéresse et ce qui fait partie de votre environnement quotidien ne suffit plus pour devenir un adulte. Et donc la mission de l'école, elle n'est pas d'enseigner les choses qui intéressent Bruno à Bruno et les choses qui intéressent Mathilde à Mathilde. Le rôle de l'école, c'est d'enseigner à Bruno et à Mathilde des choses dont on pense qu'elles vont les aider à devenir des adultes. C'est pour ça que je suis vraiment d'accord avec la distinction que vous avez faite et qui est la distinction fondamentale quand on parle du numérique. En dehors de l'école ou au sein de l'école?
Mais par rapport aux savoirs fondamentaux, est-ce que l'école doit se servir de l'outil numérique ou se servir du numérique pour révolutionner, entre guillemets, l'enseignement?
De mon point de vue, c'est vraiment l'outil. Et c'est uniquement un outil. Moi, je prends souvent l'analogie avec le journalisme, hein, comme outil. L'arrivée du numérique a absolument bouleversé bien des aspects du métier de journaliste. N'empêche qu'un bon papier écrit par un bon journaliste, ça reste un bon papier, qu'il soit écrit avec un traitement de texte ou pas. Et quelqu'un qui est un mauvais journaliste, avec un super logiciel de traitement de texte, il continuera d'écrire des mauvais papiers. Donc c'est pour moi, c'est purement et simplement un outil. Et la grande illusion, c'est de croire que les outils nous apportent des solutions. En fait, les outils nous apportent des moyens, pas des solutions.
D'ailleurs, vous écrivez, la technologie n'est pas en soi un dispositif pédagogique. Le numérique n'est qu'un outil au même titre que le livre, le papier et le stylo.
Exactement.
Hugo Travers, vous êtes étudiant à Sciences Po.
Oui.
Comment vous avez vécu le bouleversement du numérique dans vos études?
Moi déjà, je pense que j'ai grandi avec, comme tous les autres jeunes, c'est-à-dire que j'ai grandi avec YouTube, j'ai grandi un peu plus récemment avec Instagram. Et du coup, ce qui est intéressant, et je pense que c'est le cas de ma génération, on ne s'est pas forcément posé de questions. C'est-à-dire, tant pour ceux qui veulent produire, comme moi en tant que youtubeur, que ceux qui veulent s'informer ou qui veulent simplement regarder des vidéos, on a grandi avec et c'est du coup un réflexe assez évident.
Naturel.
Assez naturel qui est particulier. Moi c'est très simple, j'ai lancé ma chaîne en me disant, il y avait des contenus typiquement d'éducation qui étaient déjà bien développés sur la science, sur l'histoire, sur plein de sujets. Je me suis dit, ça manque peut-être sur l'actualité. Et donc ça a été toute l'idée de cette chaîne Hugo Décrypte, ça a été de se dire, allons amener du coup du contenu d'actualité et puis avec des codes qu'on connaissait, parce qu'encore une fois j'ai grandi avec et ma génération a grandi avec, donc de ce point de vue là c'était relativement simple, ça demande beaucoup de travail après, mais sur la question du format et comment est-ce qu'on va faire, ça vient assez naturellement du fait qu'on est dans une génération qui a grandi avec ça.
Et vous traitez tout type d'actualité?
Effectivement, l'idée c'est au début j'ai débuté avec des sujets très politiques où l'idée c'était en 5 minutes sur YouTube, on va prendre un sujet et l'expliquer le mieux possible avec une approche journalistique pour que des jeunes puissent le comprendre et puissent simplement eux-mêmes se faire leur propre opinion sur le sujet. Au fur et à mesure ça a élargi, on a commencé à faire des reportages, j'ai commencé à faire des résumés hebdomadaires de l'actualité. Il y a même maintenant sur Instagram, si jamais vous tapez Hugo Décrypte, vous allez avoir un compte où tous les jours, tous les soirs, à 18h heure française, on poste les 5 actus du jour qui sont résumés en 2 phrases. Donc c'est vraiment l'idée de rendre l'actualité accessible à tous les jeunes. Et je pense d'ailleurs que c'est une mission qui n'est pas forcément remplie par, en tout cas, l'école en France aujourd'hui, cette question de l'éducation aux médias, qui est un élément assez important et que j'essaie aussi d'amener sur les réseaux sociaux.
Et comment vous avez appris à créer un site internet, le montage vidéo, tout ce que réclament vos chroniques sur votre chaîne Hugo Décrypte?
Justement, avec YouTube, avec internet, c'est ça qui est incroyable. Et je pense que typiquement, c'est des compétences qu'on apprend mieux directement soi-même que via des cours spécialisés là-dessus. Je pense que en fait, on apprend au fur et à mesure et en fonction de nos besoins. Au début,
donc, ça veut dire qu'on n'a plus besoin des écoles de journalisme.
Écoles de journalisme, c'est peut-être encore autre chose, mais en tout cas, c'est des écoles de montage, etc. Moi, j'entends beaucoup de youtubeurs typiquement qui sont sur du cinéma, qui sont sur ces thématiques-là et qui disent assez souvent, faites une école, si jamais ça vous rassure, si jamais vos parents veulent en faire une, et même pour vous, vous pouvez apprendre beaucoup de choses au sein d'une école, mais gardez en tête que l'expérience et au-delà de ça, les compétences que vous allez acquérir à côté sont au moins aussi importantes, si ce n'est plus importantes. Et donc, c'est un élément qui est assez important pour moi.
Et vous travaillez seul?
Non, aujourd'hui, heureusement, depuis peut-être un an, j'ai une équipe avec moi, un journaliste à temps plein depuis janvier, qui travaille avec moi sur les vidéos, et donc on travaille sur tout ça, j'ai des monteurs qui bossent avec moi, donc on est 7 28 aujourd'hui, mais ça a été pendant longtemps, on était deux et là on réussit à se développer, ça fait plaisir, mais toujours avec ce même objectif de parler d'actualité aux jeunes.
Donc c'est une petite entreprise maintenant?
C'est une petite entreprise, ouais, ça a démarré en étant une chaîne YouTube que j'ai lancée comme ça en commençant mes études en parallèle, en me disant bah, je vais essayer de faire ça, on verra ce que ça donne, et puis voilà, si ça marche tant mieux, sinon tant pis. Et au final, au fur et à mesure, le truc a grandi, et aujourd'hui effectivement, moi j'arrive à en vivre, ce qui n'est pas évident, et ce qui est, ça il faut quand même le dire, pas le cas c'est le cas d'une infime minorité de youtubeurs, mais ça y a eu un développement sur la chaîne qui est intéressant et qui me permet de développer des nouveaux formats, des formats de résumé d'actualité, des formats de reportage, des formats de direct qu'on va lancer sur YouTube. On va essayer d'avoir une interaction, c'est ça aussi, on l'a pas forcément dit depuis le début, mais la question de l'interaction avec l'audience est très importante, c'est-à-dire que j'essaie de lancer des débats sur Instagram, sur YouTube, à la fin de chaque vidéo, à la fin de chaque publication, pour que les jeunes aussi puissent interagir, et cette question de l'interaction est très importante dans l'éducation, de faire en sorte que je donne des informations, mais après c'est aussi à vous de vous en saisir et de créer des débats, et c'est un élément qui est assez intéressant.
Hugo, on va écouter une vidéo que vous avez réalisée en juin 2018, après l'assassinat en Floride du jeune rappeur américain XXXTentacion. Voilà, j'étais sûre que j'allais avoir du mal à le dire, on en parle juste après.
Dans la nuit de lundi à mardi, on apprenait la mort du rappeur américain XXXTentacion à tout juste 20 ans, tué par balle en Floride. Très très rapidement, les réseaux sociaux ont été envahis de rumeurs comme quoi il serait pas vraiment mort et que ce serait un coup de com pour un prochain son qu'il va sortir. Du coup, ça me semblait important de démonter ces théories pour montrer en quoi c'est basé sur rien. Aussi, croyez-moi, même si vous ne connaissez pas ce rappeur, cette vidéo devrait vous intéresser puisqu'on va voir plusieurs méthodes de manipulation et de propagation de fausses informations. Bref, premier élément que j'ai beaucoup vu, c'est cette vidéo Instagram. Dans cette vidéo, le rappeur semble expliquer qu'il n'est pas mort, que l'annonce de sa mort était fausse et qu'elle avait été faite pour faire la promotion d'un de ses clips. Mais attention, cette vidéo en réalité elle date d'il y a plusieurs mois et elle n'a pas du tout été tournée cette semaine. XXXTentacion l'avait fait pour répondre à des rumeurs de l'époque. Le truc c'est que pas mal de gens l'ont republié sur YouTube ou sur Instagram cette semaine en titrant XXXTentacion confirme qu'il n'est pas mort, le tout sans expliquer, et c'est sûrement fait exprès, que la vidéo date de plusieurs mois. Plusieurs personnes ont aussi pensé que la vidéo qui a été mise en ligne et qui montre le rappeur mort dans sa voiture était une fausse vidéo ou alors une mise en scène. Le problème c'est que la qualité de la vidéo est tellement affreuse qu'on voit rien, c'est un snap lui-même filmé avec un téléphone et au-delà de ça l'éclairage est pas bon, il y a des ombres etc. Sur Twitter j'ai aussi vu ça avec un petit 2500 retweets. En gros la vidéo de lui dont on vient de parler, la vidéo de lui inanimé dans la voiture, eh bien ça ferait selon ce tweet au moins 4 mois qu'elle est en ligne sur YouTube, autrement dit c'est une mise en scène ou en tout cas c'est pas du tout récent. Le truc c'est que la vidéo qu'on voit sur le screen de ce tweet qui a fait 2500 retweets, en fait à aucun moment dans cette vidéo YouTube en tant que telle on voit la vidéo de XXXTentacion mort dans sa voiture. En gros ce qu'a fait la personne c'est qu'il a uploadé sa vidéo il y a 4 mois qui portait apparemment sur un tout autre sujet et simplement pour faire le buzz aujourd'hui il y a quelques jours, enfin au moment en fait de la diffusion de cette vidéo de XXXTentacion dans la voiture, et eh bien il a fait une capture d'écran et il en a fait la miniature de sa propre vidéo. Évidemment histoire de ramener du monde. Autre chose que j'ai beaucoup vu passer, des gens disent qu'aucune star ne lui a rendu hommage à l'annonce de sa mort et ce serait en gros parce qu'ils sont au courant que c'est une fausse mort et donc un coup de com. Bon là en l'occurrence il faut simplement arrêter de penser que c'est vrai juste parce que quelqu'un l'a dit, il y a énormément de rappeurs qui lui ont rendu hommage et je vous conseille d'aller voir de toute façon par vous-même. Bon et puis on l'oublie peut-être mais c'est quand même le plus important, la police locale, le manager du rappeur et son avocat ont confirmé qu'il était mort tué par balle. J'espère surtout que cette vidéo vous permet de mieux cerner les méthodes et les techniques employées par ceux qui veulent diffuser des rumeurs le plus souvent pour faire le buzz.
Hugo Travers, démonter les fake news, vous le faites régulièrement ?
C'est l'un des objectifs effectivement de la chaîne parce qu'on est évidemment sur des plateformes où beaucoup de fausses informations sont véhiculées. Et là, vous avez pris un exemple où on est sur un sujet qui n'est pas un sujet politique et c'est un choix de ma part de le faire sur des sujets qui ne sont pas politiques mais qui, je pense, et je l'ai vu sur ma chaîne, intéressent souvent beaucoup plus les jeunes. L'idée, c'est de, le raisonnement, c'est quoi ? C'est de se dire... Les techniques de manipulation et de relais de fausses informations, c'est les mêmes pour un sujet politique que pour un sujet plus léger ou sur un autre sujet lié à la culture. Et donc, je vais prendre un sujet qui intéresse les jeunes, en tout cas qui intéresse beaucoup de jeunes, qui était là, la mort de ce rappeur-là, et on va essayer de voir comment ces fausses informations sont véhiculées, histoire que, effectivement, les jeunes qui regardent cette vidéo puissent comprendre ces mécanismes et puissent potentiellement être vigilants quand il y aura des fausses informations sur des personnalités politiques notamment.
André Tricot, comment vous expliquez le succès de ces fake news, notamment auprès des jeunes ?
Alors, les fake news, c'est un sujet de préoccupation qui est extrêmement ancien, notamment en France. Dès le début des années 1980, il y a eu la création de dispositifs au sein de l'éducation nationale sur cette question de l'éducation aux médias, mais on va dire depuis une dizaine d'années, l'attention a été encore plus importante sur ce sujet-là, et je crois que c'est tout à fait légitime pour une raison qui est que les humains ne demandent qu'à croire ce qu'on leur raconte, notamment si ce qu'on leur raconte corrobore leur point de vue, confirme leur point de vue initial. Et en quelque sorte, ce qui vient d'être montré sur l'assassinat de ce rappeur, c'est l'idée de dire ok, peut-être que cette information est fausse, n'empêche que j'ai bien envie de la croire parce que c'est tellement cohérent avec ma vision du monde que, au moins temporairement, j'ai envie de la croire. Et ça, c'est rendu possible par le fait que la diffusion de l'information, qui était le travail des journalistes pendant longtemps, est devenue quelque chose qui est partagé par toutes les personnes qui ont envie de diffuser de l'information via Internet.
Hugo, vous voulez ajouter un mot ?
Juste en écoutant le reportage, je me disais, mais c'est bizarre, mais c'est pas un peu l'histoire de Madame Bovary qui croyait que dans les livres, ce qu'on raconte, c'est vrai, et qui était extrêmement déçu par la vie, parce que finalement, c'est très décevant, la réalité, par rapport à ce qu'on aimerait qu'elle soit, quoi.
Hugo.
Non, je voulais simplement compléter très très rapidement avec deux chiffres qui me semblent intéressants. Déjà, une étude de la revue Science qui montre que les fausses informations sur Internet, donc c'est aux États-Unis que l'étude a été faite pendant 10 ans, Les fausses informations sont relayées 6 fois plus que les informations vérifiées. C'est une étude de la revue Science qui est assez intéressante de ce point de vue-là. Et deuxième point assez intéressant, certes les jeunes sont très exposés aux fausses informations, mais une autre étude là aussi américaine, mais on peut imaginer que c'est quelque chose de similaire en France, les seniors sont les personnes qui relaient le plus des fausses informations et ce ne sont pas les jeunes. Et donc c'est un point aussi qui, je pense, est assez intéressant. Les jeunes y sont exposés, mais ce n'est pas forcément ceux qui les relaient et qui y croient le plus.
7 milliards de voisins.
RFI, on est ensemble.
5, 4, 3, 2, 1, 0, c'est parti. Yeah. Ok?
Spotlight, moonlight. Nigga, why you tripping, get your Mariah. Shorty look good in the moonlight. All these pussy niggas so bad, man. Spotlight, moonlight. Nigga, why you tripping, get your Mariah. Shorty look good in the moonlight. All these pussy niggas so bad, man. Spotlight, moonlight. Nigga, why you tripping, get your Mariah. Shorty look good in the moonlight. All these pussy niggas so bad, man. Spotlight, moonlight. Nigga, why you tripping, get your moonlight. Shorty look good in the moonlight. All these pussy niggas so bad, man. Feel like I'm destined. I don't need no Smith & Wesson, no. Who are you testing? Fuck a scantron, here's your lesson, no. Knife and intestine. Taking shots at all your brethren, no. Feel like I'm damaged. I'm like you fucking playing. All these pussy niggas so bad, man. Spotlight, moonlight. Nigga, why you tripping, get your mood right. Shorty look good in the moonlight. All these pussy niggas so bad, man. Spotlight, moonlight. Nigga, why you tripping, get your mood right. Shorty look good in the moonlight. All these pussy niggas so bad, man. Spotlight, moonlight. Nigga, why you tripping, get your mood right. Shorty look good in the moonlight. All these pussy niggas so bad, man.
Moonlight, XXT Temptation, le rappeur américain de 20 ans assassiné l'an dernier en Floride dont on parlait tout à l'heure. Vous écoutez 7 milliards de voisins sur RFI. Qu'apprend-on réellement en dehors de l'école grâce au numérique ? On continue d'en discuter avec deux jeunes youtubeurs, Hugo Travers et Natacha, et André Tricot, professeur en psychologie, co-auteur du livre « Apprendre avec le numérique » aux éditions Retz. Natacha, vous avez créé la chaîne NART il y a 4 ans, donc comment l'idée a-t-elle germé dans votre tête ?
Alors en fait, j'étais dans une période où je cherchais à travailler dans le milieu artistique. Et il faut savoir que le monde de l'art est extrêmement sclérosé en France. Si on n'a pas fait les bonnes études, c'est difficile de trouver un poste. Et j'étais assez frustrée en fait de ne pas réussir à pouvoir exercer la profession que je voulais pouvoir exercer. Et les études me manquaient aussi, puisque j'ai fait des études en histoire de l'art notamment. Et c'était une manière en fait de reconnecter avec tout ça. Donc à la fois de refaire de la recherche pour mes vidéos, d'avoir la sensation de travailler dans le monde de l'art, même si indirectement, même si en ne gagnant pas forcément ma vie avec.
Et de transmettre votre passion.
Et voilà, et de transmettre également, puisque la pédagogie, la transmission sont des choses qui me passionnent depuis longtemps.
Vous trouvez que l'art est un peu trop élitiste et vous voulez le rendre moins élitiste ?
Absolument. En fait, je considère que la démocratisation de l'art, c'est en grande partie le travail des musées et qu'en France, en tout cas, ils ne remplissent pas toujours forcément cette fonction au mieux. Et que l'art reste, en tout cas, est perçu, l'histoire de l'art et l'art, dans l'esprit de beaucoup de gens, comme quelque chose d'inaccessible, qui ne les concerne pas vraiment, alors que, en fait, l'art est partout et ça peut absolument parler à tout le monde. Il faut juste avoir les clés d'interprétation et de compréhension.
Alors justement, on va écouter tout de suite l'une de vos vidéos où vous démontez une idée reçue.
Salut à tous! Aujourd'hui, j'aimerais revenir avec vous sur une remarque que j'entends souvent au sujet de l'art contemporain, à savoir que ça ne ressemble à rien. Pas « c'est moche » ou « j'aime pas », ce qui correspondrait à un jugement de goût, mais ça ressemble à rien, et donc certainement pas à de l'art. Entre le 17e et le 19e siècle en France, on avait bien des critères pour déterminer la beauté, et donc la valeur, d'une œuvre d'art. On appelle cet ensemble de critères la convention académique, puisqu'il a été mis au point par l'Académie royale de peinture et de sculpture. La représentation de la figure humaine se limite à des postures nobles et à des gestes expressifs empruntés au classicisme et à la Haute Renaissance. La composition picturale se doit de préserver l'équilibre, l'harmonie et l'unité classique. Le problème, c'est que l'Académie va finir par se casser la gueule, pour des raisons internes, sur lesquelles je ne vais pas revenir parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais aussi pour des raisons externes, et parmi celles-ci, l'invention de la photographie. Il faut que la peinture se trouve une raison d'exister, en mettant en place une stratégie de différenciation. Cette raison, c'est ce qu'on appelle l'objet tableau. L'art se doit d'être novateur, de proposer quelque chose que la photographie ne peut pas représenter, en étant notamment une fenêtre qui ouvre non plus sur le réalisme, mais sur l'imagination de l'artiste. Le rôle de ce dernier n'est plus alors d'être un artisan ou un savant, mais bien un créateur, pour qui l'art devient une fin en soi. Ainsi, on passe d'une période où c'était l'institution, l'académie donc, qui déterminait ce qui était de bon goût, à une période où c'est le marché, donc ce qui se vend, qui va le décider. Comprenez bien que, comme à partir de ce moment-là, il n'y a plus de critères précisément établis, on peut considérer que tout peut être de l'art et que tout peut être une œuvre de qualité. À vrai dire, on assiste à l'avènement d'une nouvelle convention que j'appelle la convention d'originalité. En fait, l'artiste doit réussir à se différencier dans ce nouveau système en se distinguant de la photographie d'une part et en insistant sur l'originalité de son travail d'une autre part. Trois éléments sont alors à mettre en avant: la non-reproductibilité du processus de création, la nouveauté et l'authenticité de l'œuvre. En gros, une œuvre a autant de valeur qu'elle est rare, authentique et innovante. Et c'est là qu'on commence à mettre le doigt sur le cœur du problème. Ce n'est pas tant que l'art contemporain ne ressemble à rien, c'est qu'il veut ne ressembler à rien de ce qui a été fait avant lui.
Natacha, pour vulgariser, est-ce qu'il y a des codes à respecter sur la forme, le ton, le vocabulaire, la musique, le graphisme?
Oui, je suis intimement convaincue qu'il y a des codes, surtout sur YouTube, mais contrairement à Hugo, moi je suis une vieille. J'ai pas forcément
très vieille.
j'ai pas forcément grandi en fait avec Internet. Enfin, j'ai commencé à utiliser Internet fréquemment à partir de mes études supérieures. J'ai commencé à consommer YouTube durant mon master 2, donc j'avais déjà fait mes études. J'avais déjà un certain nombre de codes sur comment. Comment je m'exprimais, comment je rédigeais des dissertations, peu importe. Et donc, moi, j'ai découvert tous ces codes un petit peu tardivement et j'ai pas su forcément tous les accaparer. Il y en a que je maîtrise pas. J'assume parfaitement de faire les choses à ma manière. Après, c'est évident que quand on vulgarise, il faut partir du principe que les gens n'ont pas, qu'il n'y a pas de prérequis à avoir. En fait, si je pars du principe que pour parler d'art contemporain, les gens savent tous ce que c'est que le surréalisme, pardon, je dis n'importe quoi au hasard, mais ça va pas marcher. Il faut toujours partir du principe. aucun prérequis de base. Je m'adresse à des gens qui n'ont peut-être jamais entendu parler de ça. Et voilà, comment est-ce que je réussis à leur expliquer ça en un temps relativement court, puisque par contre, ça, c'est vrai que c'est important. Faut que, sur YouTube, en tout cas, il faut que ça reste court. On ne peut pas prendre 30 minutes pour parler de sujets qui, parfois, nécessitent 2 heures.
Aujourd'hui, vous avez 30 000 abonnés. C'est un bon score pour une chaîne qui s'attache à vulgariser l'art ?
Je pense que c'est un score décent, oui. On n'est pas énormément à parler d'art sur YouTube. Et il y a beaucoup de, entre guillemets, petites chaînes, de chaînes de qualité. Hein, mais c'est juste que l'art et l'histoire des arts, c'est pas forcément le sujet qui intéresse le plus les gens. C'est pas un sujet auquel on est nécessairement confronté. C'est pas obligatoire, par exemple, dans la formation au collège et au lycée. On fait des arts plastiques, on fait pas forcément de l'histoire des arts. Voilà, et donc, comme je disais, beaucoup de personnes ne voient pas forcément l'intérêt, même d'autant de parler d'histoire des arts parce que ça ne fait pas partie de leur quotidien. Donc oui, je pense que pour un milieu pareil, ça va, ça se défend.
Nous avons maintenant en ligne Loïc Mainviel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignant-chercheur à l'EDEC, l'école des hautes études commerciales. Et l'an dernier, l'EDEC a créé EDEC Online. Quel est le principe de cette formation en ligne ?
Alors, le principe, en tout cas, c'est vraiment de se poser un certain nombre de questions par rapport à un tournant stratégique pour le groupe EDEC. C'est de dire qu'aujourd'hui, le digital doit faire partie, en tout cas, de nos environnements. Et donc, aujourd'hui, on développe tout un portefeuille, en tout cas, de cours, d'activités, de programmes qui vont utiliser habilement le digital pour mettre à la portée ces éléments de connaissance en direction de nos différents participants. Donc, aujourd'hui, c'est de rentrer, en tout cas, dans ces univers, de s'acculturer, notamment, en tout cas, adosser à des grands groupes comme Imperial College, comme Singapore SMU, le SMT de Berlin ou Melbourne Business School, qui vont nous permettre de comprendre quels sont les nouveaux modèles d'enseignement, les nouvelles approches, et pour faire en sorte qu'on soit un petit peu dans la continuité, ce que les youtubeurs mettaient en évidence à ce sujet dans leurs propos, c'est développer en tout cas une sorte de curiosité. Et nous, on va aller plus loin dans cette logique de développement de la curiosité, c'est vraiment de faire en sorte que l'on construise en tout cas ce savoir et cette connaissance, et surtout avec un élément fondamental, c'est développer du sens critique pour l'ensemble de nos apprenants.
On revient au sens critique. Mais est-ce que cette formation en ligne permet un coaching régulier et individuel ?
Alors, oui, c'est même nécessaire et c'est l'un des éléments en tout cas de base de notre réflexion. Soyons clairs, on a déconstruit en tout cas des modèles existants, des modèles en tout cas comme on tout à l'heure on parlait en introduction aussi des effets de mode, et à un moment donné, beaucoup d'institutions se sont centrées sur des MOOC en disant c'est forcément là où il faut aller. Quand on regarde en tout cas ce que les MOOC ont pu donner, c'est des taux de réussite qui avoisinent les 5 à 10% en tout cas de personnes qui achèvent leur parcours grâce à ces MOOC.
Mais quelle est la différence entre un MOOC et votre formation en ligne ?
Dans cette logique, en tout cas pour nous, c'est vraiment d'accompagner personnellement ces candidats qui viennent dans nos formations en ligne. Et c'est pour ça que j'en reviens à ce taux d'échec, en tout cas des MOOC de 90 à 95% d'échec pour les participants sur les MOOC, c'est qu'il y a un isolement en fait de ces personnes, c'est qu'il n'y a pas de coaching et pas vraiment en tout cas d'accompagnement de ces participants. Nous, on prend l'effet inverse, on se dit que pour pouvoir en tout cas enseigner correctement avec du digital, c'est de faire en sorte de ce qu'on va appeler de développer du e-learning de proximité, d'avoir des supports quotidien, c'est-à-dire des académiques mentors, des gens qui ont la connaissance et qui vont être à disposition quotidiennement de nos apprenants, et puis aussi des coachings, qui soient en tout cas des coachings individuels et collectifs, pour développer cette logique en tout cas du sens critique, cette logique de débat qui peut être malheureusement atténuée au travers de supports digital. Donc on essaie de prendre, on va dire, le meilleur parti entre d'un côté le digital et de l'autre côté, on va dire, les modèles classiques en tout cas de l'école qui ont fait leur réussite. Et habilement, on jongle en tout cas entre ces différents éléments pour faire en sorte qu'on arrive à la réussite de nos participants.
Alors vous avez des mentors en plus des coachs. Un mentor, qu'est-ce que c'est ?
Alors un mentor, c'est aujourd'hui en tout cas dans le processus de recrutement, des gens qui ont un doctorat, des gens qui ont été sélectionnés par rapport à leur capacité de vulgariser la connaissance. Tout au long en tout cas de notre émission, tout à l'heure, on a parlé de cette logique de vulgarisation de la connaissance, que ce soit au travers des vidéos de Hugo ou de Natacha, c'est de mettre à la portée de tous cette logique de connaissance. Et nous, ces mentors en tout cas qui ont un doctorat, vont permettre à nos participants de formation continue de décrypter des problématiques en tout cas financières, des problématiques stratégiques pour les entreprises, de les accompagner quotidiennement dans cette démarche de connaissance et d'excellence académique. Et puis derrière, vient se greffer bien évidemment ces coachs qui leur permettent aussi de développer collectivement en tout cas des bonnes pratiques favorisant l'intelligence collective.
Mais les professeurs sont les mêmes que pour la formation classique ou pas ?
Alors, votre question est tout à fait légitime. Nos professeurs sont exactement les mêmes que sur la formation classique. Je vais même dire qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut très souvent considérer que la formation online est une formation, en tout cas, un petit peu mise de côté. Bien au contraire, je pense qu'aujourd'hui, la formation online doit constituer en tout cas une vitrine de notre savoir-faire. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on a décidé de travailler avec nos professeurs et enseignants-chercheurs permanents du groupe EDEC, mais aussi d'être adossés à nos chaires de recherche pour être dans cette logique véritablement de diffusion de la connaissance et de l'enrichissement en tout cas collectif.
Mais vos professeurs n'ont pas besoin de compétences particulières, par exemple, par rapport à la vidéo, par rapport à la caméra ?
Alors, si, soyons très clairs, aujourd'hui, on est en train de revoir un modèle. Filmer en tout cas des cours, je ne pense pas que ça va en tout cas accroître la capacité d'attention de nos personnes. Ça veut dire que l'on va séquencer, ça veut dire qu'on est accompagné par des ingénieurs pédagogiques qui vont nous permettre de reconstruire en tout cas notre modèle d'enseignement. Si c'est juste pour dupliquer des choses existantes, je crois qu'on fait fausse route. Dans cette logique, on est vraiment en tout cas dans une refonte en tout cas d'un professeur. Je vais dire très clairement, on est sur un professeur augmenté, c'est-à-dire ici ce professeur qui doit utiliser correctement ses outils du numérique. Et à nouveau, je rejoins André Tricot tout à l'heure dans ses propos, c'est d'utiliser habilement ce numérique. Le numérique ne doit pas être une finalité, le numérique doit être un moyen. Mais c'est vrai par rapport à ces moyens, c'est de dire qu'il y a un autre langage, une autre façon de faire, une autre façon en tout cas de séquencer, notre façon de diffuser la connaissance et les modèles que vous avez cités au travers de vos reportages, que ce soit via les différents youtubeurs, etc., sont sur des modèles qui nous obligent inéluctablement, en tout cas, en tant qu'enseignant-chercheur, en tant que formateur, à revoir, en tout cas, la donne de nos vidéos, de notre séquençage, de notre façon, en tout cas, de délivrer cette connaissance, de rythmer, en tout cas, différemment les choses pour permettre un meilleur taux d'engagement de nos participants.
Hugo Travers, vous voulez rebondir sur ce que vient de dire Loïc Mainviel ?
Non, c'est très intéressant, effectivement, que des écoles, elles aussi, prennent ce pas-là et aillent de l'avant sur ce genre d'initiative. Je pense qu'il y a une dimension qui peut être intéressante sur ces formations en ligne, c'est ce qu'on appelle la gamification, c'est-à-dire de pas seulement avoir des cours accessibles en ligne, mais au-delà de ça, d'avoir une sorte d'interaction, de la même façon que nous, on essaie d'avoir une interaction avec notre communauté. Dans le cas de formation, ça peut être typiquement avoir des quiz, ça peut être avoir... typiquement, ce système de récompense, je mets ça entre des guillemets, mais de tester ses connaissances, de voir où on en est, de voir notre progression, et donc de faire des cours, pas seulement une vidéo qu'on va aller regarder, et puis voilà, on aura fini la formation, mais ajouter à ça une dimension d'interaction et de participation pour tester nos connaissances et pour aller au-delà de ça. Donc c'est effectivement très bien que des écoles se saisissent de la question et aillent aussi en ligne.
André Tricot, vous voulez réagir ?
Oui, c'est extrêmement intéressant. Pendant que vous parliez, j'ai vérifié, grâce à Internet, un article qui est paru en mars 2009, donc c'est assez récent. C'est une étude expérimentale où les choses sont assez bien contrôlées, où on a mis des cours en ligne, des vidéos de cours filmés, et on a regardé des cours qui existaient en version vidéo et des cours qui n'existaient pas en version vidéo. Et les étudiants avaient le choix, quand le cours existe en version vidéo, de le regarder avec les vidéos ou d'aller en cours, puisque le cours est maintenu. Et l'étude montre que les étudiants qui font le choix de regarder le cours en vidéo, donc le cours filmé, ils vont moins en cours, une fois qu'ils ont pris la décision de regarder les vidéos, ce qui semble logique. Le petit problème, c'est que quand on regarde leur performance d'apprentissage, elle est moins bonne que les étudiants qui choisissent d'aller en cours. Et j'aime bien cette étude parce que c'est un test expérimental dans lequel on maintient les deux versions et on regarde en fonction des choix que font les individus ce que ça donne. Tout ça pour insister sur le fait qu'aujourd'hui nous sommes tous d'accord sur le fait que filmer des cours, c'est pas ce qu'il faut faire, alors qu'il y a 5 ans tout le monde racontait le contraire. Et comment dire, dans le cadre d'études académiques, c'est pas parce qu'un étudiant dit « moi je préfère regarder des vidéos » que cet étudiant a raison. je parle du point de vue de ces performances d'apprentissage. Et donc, l'idée, je crois, pour résumer ce qui vient d'être dit, c'est juste quand on utilise le numérique comme outil dans un contexte académique ou dans un contexte de formation professionnelle en entreprise, hein, qui est quand même un domaine extrêmement important. L'idée, c'est juste de pas être naïf, en fait, tout simplement, et de dire utiliser le numérique au service de l'apprentissage, c'est un peu plus subtil que yaka, faire ça et ça marchera. Bon, après, de façon cynique, c'est bien pour un laboratoire de recherche comme le mien, parce que après, les trucs qui marchent pas, les entreprises viennent vers nous et puis nous proposent des contrats de recherche pour que on leur explique pourquoi ça marche pas ce qu'ils ont fait. Donc c'est très bien, mais enfin, je veux dire, voilà, soyons sérieux. Et j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit l'intervenant précédent en disant, voilà, dans les écoles, il y a des ingénieurs pédagogiques dont c'est le métier de concevoir des solutions avec le numérique. Et dans la solution, mais il va y avoir des vidéos, il va y avoir des exercices, comme ça a été dit, il va y avoir des corrections, il va y avoir tout ça. Et c'est ce dispositif qui favorise l'apprentissage.
Natacha, vous vouliez ajouter un mot?
Oui, ce que je trouve intéressant, donc, par rapport à cette étude de 2009 qui vient d'être citée, c'est qu'on sait qu'un des piliers de l'apprentissage, notamment, c'est la répétition. Et donc, par exemple, quand on fait des vidéos sur YouTube, comme Hugo et moi, on doit aussi rendre notre contenu attractif. Et une des manières de le rendre attractif, c'est qu'il soit court. Donc, par essence, on répète assez peu, parce qu'en plus, répéter, c'est un peu ennuyeux, donc on va éviter de répéter. Donc je pense qu'il faut aussi qu'on ait conscience, quand on crée du contenu comme ça, qu'on n'est pas forcément dans la transmission de faits. Moi, je ne me dis pas, les gens qui regardent mes vidéos sont en train d'apprendre le nom d'un artiste, ses dates, des choses précises à son sujet, le nom d'œuvre. Ils retiennent davantage peut-être une réflexion, un propos de fond, peut-être même le déroulement de ma pensée, mais je sais très bien que je ne suis pas dans la transmission de faits, parce que pour rendre mon contenu un petit peu attrayant, il faut qu'il fasse entre 3 et 7 minutes. Donc, je ne vais pas me répéter. Et rien que ça, le fait qu'on ne se répète pas, éventuellement, moi, parfois, je mets des quiz en fin de vidéo pour susciter ça. Mais c'est vrai qu'il faut reconnaître aussi les limites du contenu numérique. Quoi, pour le rendre intéressant, pour que les gens aillent le consommer, on sacrifie sur des choses qui servent à mieux transmettre.
Je vous propose d'écouter à présent un message qu'Adelph Ayaoundé nous a laissé sur WhatsApp.
Bonjour à tous les voisins et les voisines de la Radio France Internationale. C'est Adelph depuis Yaoundé. Quand on parle d'Internet, je vois toute ma vie. Internet a contribué quasiment à ma formation, à mon éducation. Et de l'histoire de la musique en passant par l'apprentissage des langues, des rencontres entre amis, pour ne pas dire brassage, l'Internet est un outil performant. Un exemple tout court. J'étais en voyage au Niger il y a 2 ans et arrivé à destination, la personne qui devait venir me chercher n'était pas joignable. C'était une personne qui me connaissait sur Facebook qui m'a hébergé. Les amis avec lesquels je traîne aujourd'hui sont quasiment des gens que je les connais sur Facebook, sur Twitter et autres. L'Internet m'a permis en plus de ça de me former, de faire des cours online, de découvrir le monde extérieur. Ça me permet de gagner de l'argent. L'Internet est toute ma vie. C'est ma famille. C'est en fait tout ce qu'il y a de mieux que je n'ai jamais eu dans ma famille. Et pour rien au monde, je peux changer l'Internet à une autre chose. Merci à tous les voisins et voisines.
Voilà, on va se quitter avec ce témoignage assez touchant d'Adelph Ayaoundé. Merci à tous les quatre d'avoir été nos invités. Loïc Mainviel, enseignant-chercheur à l'EDEC, l'école des hautes études commerciales, en duplex de Toulouse. Et merci au passage à nos confrères de France Bleu Toulouse qui ont permis ce duplex avec vous. André Tricot, professeur en psychologie. Je renvoie nos auditeurs au livre que vous co-signez avec Franck Amadieu, Apprendre avec le numérique, mythe et réalité, aux éditions RETS. Et puis merci à nos deux youtubeurs, Hugo Travers, on vous retrouve sur votre chaîne YouTube Hugo Décrypte, et Natacha, on vous suit également sur YouTube, sur votre chaîne NART. 7 milliards de voisins touchent à sa fin. Merci à toute l'équipe, Sigrid Azéroal, Delphine de Dianous, Charlie Dupio, de m'avoir aidé à préparer cette émission, réalisée par Romain Dubrac. Lundi, vous retrouverez à ce micro Samira Ibrahim et ses invités autour d'une question: qui est la génération Z ?